Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunois Assurance. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Chacun d'entre nous peut citer au moins une rencontre qui a changé sa vie. Rencontre aux multiples facettes, au pluriel, qu'elle soit amicale, amoureuse, artistique, attraction et partage constructif ou attirant ces relations toxiques. Ces rencontres peuvent se transformer en relations épanouissantes ou chaotiques, en initiations enrichissantes ou perverses. Elles peuvent inspirer, déstabiliser, apaiser. Mais qu'elles soient bénéfiques ou non, ces rencontres vont modifier notre parcours, notre vision, notre cheminement. Et de ces expériences naîtront peut-être de nouvelles questions. Faut-il se fier à notre instinct ou dépasser la première impression? Comment expliquer que certaines rencontres, même extrêmement brèves, nous marquent à tout jamais? Et Internet, on pense bien sûr aux réseaux sociaux, aux sites de rencontres. La technologie a-t-elle changé profondément la donne? Est-ce que certains d'entre nous ont perdu l'art et la manière de bien se rencontrer? Vos témoignages, vos questions, comme chaque jour, Priorité Santé vous donne la parole. À une époque où tout va vite et où tout est traité en surface, nous devons être attentifs à la façon dont nous créons du lien et à la place que nous accordons aux rencontres. On va essayer de parler trop vite avec vous. Citation de la conclusion de votre livre, Géraldine Prévost-Gigant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychopraticienne, animatrice de groupe de parole. Votre livre qui s'intitule La force de la rencontre, il est publié aux éditions Odile Jacob. Rencontre pour le meilleur ou pour le pire, spontanée, arrangée. On sera en ligne avec le Bénin, avec le professeur Prosper Gandao, chef du service de psychiatrie du centre hospitalier départemental universitaire de Borgou, professeur de psychiatrie d'adultes à l'université de Paracou. Et en fin d'émission, le docteur Catherine Solano, sexologue, répondra à une question d'auditeur postée sur la page Facebook de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Une fois la rencontre réalisée, nous ne voyons plus les choses de la même façon. Je vous cite, je vais beaucoup vous citer. C'est quelque chose que vous soulignez tout au long de votre livre, que l'issue en soit bénéfique ou toxique. Ces rencontres, Géraldine Prévost-Gigant, eh bien, sont des facteurs essentiels de changement.
Et des facteurs essentiels de transformation. Je pense qu'on a besoin des autres pour mieux se connaître et aussi être davantage dans la sagesse. Je trouve qu'on apprend beaucoup des autres, ce que l'on aime et ce qu'on aime moins, nos sympathies, nos antipathies. Mais j'ai appris, la vie m'a appris que chaque rencontre nous apprend un peu plus sur nous-mêmes et nous rend, si on le veut, un peu plus sages et nous permet aussi d'accueillir. C'est l'art d'accueillir, en fait, l'art de la rencontre. En me penchant sur ce sujet, je me suis rendu compte que la rencontre n'est pas forcément facile pour tout le monde. La rencontre peut être vécue sans conscience, mais à partir du moment où on est conscient de ce qui se joue, de l'importance du lien, de ce qui peut être enrichi et nous enrichir dans l'échange, là, c'est une rencontre en conscience et du coup, ça prend toute sa couleur, sa dimension, et c'est à ce moment-là qu'on peut aussi, avec l'autre, co-créer quelque chose.
Alors c'est vrai que quand on dit rencontre, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est rencontre amoureuse, mais ça va bien plus loin que cela. Des rencontres, c'est tous les jours, c'est dans la rue, c'est au travail, c'est à l'école.
C'est aussi la rencontre avec des animaux, par exemple. C'est une partie, une courte partie de mon ouvrage. Il y a des personnes qui ont eu une rencontre importante avec un animal et ça a marqué leur vie. Ça fait partie des souvenirs importants de leur existence parce qu'il y a eu quelque chose de magique. Il y a eu aussi des sensations, des émotions et des interrogations et parfois aussi des réponses. Et en effet, les rencontres ne sont pas seulement, en effet, des rencontres amoureuses, pas seulement les rencontres marquante de notre vie, mais des rencontres, ça peut être des brèves rencontres.
Beaucoup s'intéressent aux relations. Est-ce que vous avez le sentiment, Géraldine Prévost-Gigant, qu'on s'arrête assez peu sur la rencontre, sur ce phénomène de première approche, de premier contact, de façon et d'attirance ou de répulsion? On analyse peu ce moment.
Parce que c'est naturel, pour nous c'est normal de rencontrer, on est en lien. Pour peu en plus qu'on soit né dans une famille nombreuse par exemple, être avec l'autre, c'est une normalité. Donc du coup, on passe à côté de ces questions-là. Et quand on commence à y regarder d'un petit peu plus près, c'est vrai que ça peut être très utile aussi de connaître le processus de la rencontre et aussi de notre propre rencontre, par exemple d'écouter sa petite voix, de s'autoriser à écouter son antipathie, si par exemple une personne que l'on rencontre nous est antipathique, d'écouter cela et d'en tenir compte.
Ne pas se forcer.
Ne pas se forcer ou ne pas balayer d'un revers de main ou de se dire « allez, j'insiste quand même ».
Vous disiez tout à l'heure « la rencontre c'est naturel, finalement on s'y arrête peu ». On a un autre auditeur, on va dire c'est plutôt l'inverse. Hein. Pour lui, la rencontre c'est une épreuve. C'est une question Facebook de Mouamadou. Il écoute RFI au Cameroun, il nous dit « je n'ai jamais de relation amoureuse, écoutez bien les mots qu'il emploie ». Comment faire pour affronter les rencontres, affronter ce mot, c'est pas n'importe quoi.
En effet, il y a des personnes pour qui la rencontre, c'est un vrai problème, pour qui ça réveille des peurs, l'autre peut être une menace potentielle. C'est souvent parce qu'on a eu des expériences douloureuses de par le passé, on n'a pas ancré en nous, imprimé en nous des mémoires confortables, des mémoires de bonheur de la rencontre. Et du coup, on va appréhender d'autres rencontres. Si ça a été compliqué, difficile, nos premiers liens, nos premières relations ou bien nos premières amitiés, ensuite on va redouter, on va avoir peur. Pour peu qu'en plus on ne s'aime pas, la relation va être difficile parce que si je ne m'aime pas, l'autre va être encore plus un mystère. Si je m'ignore moi-même, l'autre va être un mystère. Et ce que l'on ne connaît pas nous fait peur.
Est-ce que ça veut dire que pour bien rencontrer les autres, il faut déjà être en phase avec soi-même, se connaître ?
C'est à mon sens, impératif, important, et c'est même la clé, et la clé aussi d'une certaine paix. Parce que si je me connais, si j'ai exploré à la fois mes zones d'ombre et mes zones de lumière, et si je m'accepte et je m'accueille tel que je suis et que je mets à la poubelle les auto-jugements, je vais donc avoir un relationnel qui va être plus harmonieux, plus fluide, et je vais pouvoir me sentir accueillie et accueillir l'autre avec plus de facilité.
Et de bienveillance. Un récit de rencontre, témoignage pour continuer de comprendre les ressorts de ces rencontres. Géraldine Prévost-Gigan, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs de l'émission.
RFI à Boisquet, 97.6 FM.
Et c'est tout d'abord Marina que l'on retrouve en ligne de Côte d'Ivoire, Boisquet, au nord précisément. Bonjour Marina.
Bonjour Caroline.
On est à votre écoute, hein. Géraldine Prévost-Gigan est avec nous, on parle de la rencontre aujourd'hui dans Priorité Santé. Racontez-nous donc ces rencontres inspirantes.
Ok. Moi, j'ai fait une rencontre très, très fabuleuse avec ma directrice de thèse depuis la leçon 3, avec le cours sur le foncier. Et aujourd'hui, je fais une thèse sur l'urbanisme et elle est mon encadreur.
Donc, vous êtes étudiante, vous l'avez rencontrée, donc vous étiez déjà engagée dans des études longues. Est-ce que vous diriez qu'elle vous a montré un chemin que vous ne connaissiez pas en vous?
Vraiment, elle m'a montré un chemin, parce que sans elle, peut-être que la terre, je l'aurais abandonnée. Mmh. Parce que dès que j'ai eu le coup de foudre, je l'ai approchée. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans les études, elle me donnait toujours des conseils. Et puis elle-même, sa personnalité m'inspirait. Donc, je me suis dit, il faut que je sois comme mon mentor. Donc, c'est un peu ça.
Elle vous a montré que vous pouviez vous dépasser, vous dévalorisiez à l'époque, vous aviez des jugements plutôt sévères vis-à-vis de vous-même?
Oui. Et surtout au niveau de l'institution même. Parce que ce n'était pas évident pour une femme d'arriver jusqu'au doctorat.
Lorsqu'on entend ce témoignage, Géraldine Prévost-Gigan, témoignage de Marina Boisquet, on pense au chapitre de votre livre que vous consacrez au mentor, quelqu'un qui vous révèle.
Oui, absolument. J'ai tout de suite pensé à ce passage de mon livre et j'ai trouvé très beau quand Marina dit que cette personne, elle a compris que c'était un mentor et elle a dit qu'elle voulait être comme elle. Donc, les mentors servent à ça, c'est-à-dire qu'ils incarnent...
Une dimension de modèle.
Voilà, et des qualités qui viennent nous toucher, dont on n'aurait peut-être pas vraiment eu conscience, des qualités et des valeurs dont on est porteur, que l'autre va incarner, et grâce à cet autre, on va prendre conscience que ces valeurs sont importantes pour nous. Et puis, dans le cas de Marina, il y a aussi un fait important, c'est qu'elle dit « c'est une femme, et ça veut dire que je peux y arriver, moi, en tant que femme. » Mmh. Donc, il y a une dimension de modèle, il y a une référence, il y a une admiration et il y a une motivation qui est apportée par les personnes qui sont devant, ceux qui ont fait le chemin et qui nous montrent le chemin et qui nous montrent que c'est possible. Donc ça, c'est vraiment très aidant.
Comment ça se fait qu'avec certaines personnes, Marina utilisait le terme de coup de foudre, eh bien, le courant passe, la communication est facile. Bref, il y a certaines personnes, c'est facile tout de suite, et puis alors qu'avec d'autres, ça va être très compliqué. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ces atomes crochus ?
Je n'ai pas d'explication scientifique, j'ai mes hypothèses. Scientifiquement, on sait de toute façon que notre cerveau capte une somme d'informations dont nous n'avons pas conscience et on flaire l'autre d'une certaine façon. Il y a aussi les phéromones qui fait qu'on flaire réellement. Il y a vraiment une odeur
côté animal.
Mais je pense aussi qu'il y a des rencontres d'âme d'une certaine façon, qu'il y a des connexions avec des personnes qui, comme par hasard, ont la même vision du monde, mais on ne le sait pas au début puisque c'est au premier regard qu'on se dit waouh, j'aime cette personne, j'aime ce qu'elle dégage. J'aime son attitude, comment elle me regarde, comment elle me répond, le son de sa voix, son ouverture. Donc il y a une somme d'informations qui nous met à l'aise et c'est ensuite en connaissant la personne qu'on s'aperçoit qu'on a des valeurs communes, une vision du monde commune, qu'on vibre pour les mêmes choses. Et là c'est vrai que c'est un mystère, j'aime que ce soit un mystère d'ailleurs, et c'est important je trouve de savoir reconnaître cette magie de la rencontre et que c'est précieux. Et que ça vaut vraiment le coup d'être entretenu. C'est un petit peu quelque chose comme un jardin sacré qu'on doit entretenir parce que ce n'est pas si fréquent que ça.
Et c'est ce qu'a fait Marina avec cette enseignante. Merci beaucoup pour votre témoignage, Marina. Excellente journée à Boisquet. Des belles rencontres, il y a aussi des relations contrariées. On retrouve tout de suite Cédric qui est en ligne de Kinshasa. Bonjour Cédric.
Oui, bonjour, c'est Cédric.
Oui.
Bonjour.
On est à votre écoute, racontez-nous votre histoire.
En fait, moi, il y a 6 ans, c'était en 2012, j'ai rencontré une fille après mes études. Nous avons fait 2 ans, c'est-à-dire jusqu'à 2014. C'était vraiment une belle relation parce que c'était la première fois que j'ai pu se tomber amoureux d'une fille, puisque je m'étais concentré à mes études. C'était une belle rencontre en tout cas. C'était la première fois et on a vécu une belle expérience. Au bout de 2 ans, bon, elle a commencé à compliquer des choses. Elle ne voulait plus de cette relation. Je l'ai franchement supplié pour qu'on reste ensemble parce que je me sentais bien avec elle. Il n'y avait aucun problème majeur, en fait. Mais on s'est séparés. Depuis cette séparation, franchement, je tentais d'autres relations. Ça ne marche pas. Je suis un peu bloqué déjà, je ne fais plus confiance, j'ai peur de me retrouver dans la même situation qu'avant. Et c'est un peu une bonne et mauvaise expérience parce que ce que j'ai vécu, c'était quelque chose de magique. Mais malheureusement, je n'arrive pas à tisser d'autres liens, une bonne relation avec d'autres filles.
Cédric, vous avez peur d'être à nouveau abandonné, une nouvelle rupture, ou vous avez peur de ne pas trouver quelqu'un à la hauteur de votre ancienne amoureuse?
En fait, je peux dire les deux.
Les deux.
Parce que je peux vous dire les deux. Parce que premièrement, quand je sors avec une autre, j'essaie un peu d'essayer de voir si elle correspond aux qualités que...
Vous recherchez la même personne.
Voilà, la même personne. Et puis, par la suite, je me dis, bon, même s'il n'a pas la même qualité, est-ce qu'elle ne va pas me quitter comme l'autre l'a fait? Voilà, donc je me pose cette question, est-ce que ça va continuer comme ça? Qu'est-ce que je dois faire pour que trouvé en fait.
On vous entend bien.
Une sensation d'attente.
On vous entend bien, Cédric, Géraldine Prévost-Gigant, on entend Cédric. Rencontre tellement importante, relation tellement satisfaisante pour lui qu'aujourd'hui, c'est difficile de passer à autre chose. Ça arrive souvent, hein, ces rencontres tellement cruciales qu'elles vont freiner les initiatives ensuite et puis rendre un petit peu tout tiède.
Dans le cas de Cédric, c'est ce type de profil que je reçois aussi en consultation. Il y a deux choses, en effet. Il y a la peur que se reproduise l'abandon. Hein, vous l'avez souligné avec votre question. Cédric a pu nous préciser ceci. Et il y a l'idéalisation de la personne perdue. Donc, il y a en fait le deuil de la relation qui n'a pas été faite. Il y a la séparation qui n'a pas été acceptée parce que ça a été brutal, parce que Cédric ne l'a pas choisi, ne l'a pas voulu, cette séparation. Et donc, il y a tout un chemin à faire de dire au revoir. Voir à la relation, et je sais que c'est difficile, hein. C'est facile à dire là, résumer en une phrase, mais je sais que c'est un processus que de faire le deuil d'une relation qui nous a apporté, de quelqu'un qu'on a aimé, qu'on aime toujours d'une certaine façon, qu'on aime toujours, point d'ailleurs.
Mais Cédric a envie de s'ouvrir à autre chose, ça c'est important.
C'est super. Et ça c'est un point essentiel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'envie, il rencontre d'autres femmes, mais ça bloque. Donc il y a vraiment, ça c'est vraiment l'énergie, cette motivation à avancer. C'est vraiment l'énergie sur laquelle il peut s'appuyer, la motivation qu'il peut utiliser. Mais il y a des choses il faut dire au revoir en fait à la relation, il faut dire au revoir à cette personne. Non, on ne rencontre pas la même personne. On en rencontre une autre et on en rencontre une qui peut être bien mieux. C'est ça que l'on...
En fait, on fait une émission sur la rencontre, mais c'est aussi savoir dire au revoir.
C'est savoir dire au revoir. Pour pouvoir accueillir, je suis obligée de dire au revoir. Mmh. Sinon, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de place pour d'autres moments, d'autres bonheurs.
Est-ce que vous sentez prêt, Cédric, à une autre histoire d'amour?
Oui, j'aimerais bien, mais... J'aimerais bien changer vraiment, j'aimerais bien retrouver le même sentiment qu'auparavant et peut-être mieux, mais bon.
C'est tout ce qu'on vous souhaite. Très bonne continuation à vous. On va poursuivre cet échange dans quelques minutes après une petite pause musicale. On va remonter le temps 1967, un duo inoubliable, Marvin Gaye et Tammy Terrell.
You don't have to worry, 'cause baby
Tammy Terrell, Marvin Gaye, très belle rencontre, et c'est pas Joe Farmer hein, que l'on retrouve sur RFI tous les dimanches avec son épopée des musiques noires de 11h30 à 16h30 temps universel. Ce sont les deux horaires. Qui me dira le contraire? Force de la rencontre, titre de votre livre, Géraldine Prévost-Gigant. On vous retrouve dans Priorité Santé, psychopraticienne, animatrice de groupe de parole. Et cette question, c'est incontournable maintenant quand on parle rencontre. Peut-être que l'expression vient automatiquement. Site de rencontre, internet, nouvelles technologies, il y a beaucoup à dire hein, là-dessus, on pourrait y consacrer une émission tout entière, mais quand même, est-ce que la rencontre par internet est superficielle ou non ?
Vous êtes
réservée quand même. Hein.
Oui, alors depuis l'écriture de mon livre, mon avis a changé parce que entre-temps, nous avons eu cette expérience du confinement et avec une augmentation exponentielle et radicale des connexions sur les applis de rencontre. Jamais autant les gens n'ont voulu se rencontrer que quand ils ont été isolés. Réaction assez instinctive et normale.
Et malgré en même tout, temps, autour de nous maintenant, avec les années qui passent, on connaît des couples, on connaît des belles histoires
absolument.
Qui sont passées par ce type de connexion.
Et ce qu'on a remarqué pendant le confinement et depuis, c'est que la relation à l'application, la rencontre via les applications n'est plus tout à fait pareille. C'est-à-dire que les personnes s'impliquent plus, prennent plus le temps, sont un peu plus dans quelque chose de profond, alors qu'auparavant c'était en effet assez superficiel, ou bien ça venait entretenir une sublimation de l'autre, qu'on mettait des semaines à rencontrer, voire jamais, où les conversations étaient juste en ligne, et où on avait tout loisir de pouvoir projeter nos fantasmes, nos rêves. Là, les personnes commencent à atteindre une forme de maturité relationnelle avec ce nouvel outil qui finit par s'intégrer dans notre vie quotidienne. Et j'entends arriver jusqu'à moi de très belles histoires d'amour. Donc ça y est, les histoires d'amour peuvent passer par les applications, par les réseaux. Peut-être que mes propos et ceux de mes confrères et consœurs sur « attention, ne sublimez pas, rencontrez un peu plus rapidement ».
Parce qu'il y a aussi cette approche consumériste de la quantité, du quantitatif, de l'immédiat, de l'un après l'autre. Là, on a changé les choses.
J'ai l'impression qu'en effet, ce qui nous est arrivé, ce changement radical, ce frein, ce stop, ce changement de vie, a fait qu'un certain nombre de personnes se sont posées des questions et ont modifié leur relation à la consommation en général et du coup, ne consomment plus des relations, au moins, sauf certains profils de personnalité qui sont comme ça. Mais il y a une sagesse, je trouve, et une profondeur qui est en train d'émerger et c'est comme ça qu'on s'accapare ou qu'on apprivoise, je dirais plutôt, le mot est plus gentil, certaines technologies qui étaient nouvelles et qui aujourd'hui s'introduisent ou s'installent dans notre quotidien d'une manière naturelle.
D'autres questions, d'autres témoignages. Les auditeurs en ligne de République démocratique du Congo de Lubumbashi. On vous retrouve à Nive, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, un autre témoignage, une autre histoire, belle histoire de rencontre. On vous écoute à Nive.
Oui, je veux partager avec vous mon expérience concernant une rencontre qui a changé mon point de vue sur l'amitié. Donc, avant de rencontrer cette amie, qui est devenue ma meilleure amie, je ne croyais pas du tout à l'amitié. Je pensais que c'était une perte de temps de se lier en amitié. Bon, de nature timide, voir deux personnes en amitié, je me posais trop de questions à savoir... Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire tout le temps qu'ils passent ensemble, à part le bavardage? Donc, c'était vraiment difficile pour moi de me lier en amitié. Mais lorsque j'ai rencontré ma meilleure amie, là, ma façon de voir les choses a changé. Très vite, le courant a passé. Nous sommes devenus proches avec elle et nous pouvons parler toute la journée. Et on s'est parlé de tout et de rien. Vraiment... Avec mon ami là, il s'est créé un sentiment de sécurité. Donc avec elle, je me sentais en sécurité. Je pouvais lui dire tout, lui confier tout, et elle m'aimait.
C'était une personne digne de confiance. Elle vous a montré ce que c'était une vraie amie. J'aime bien parce que vous disiez au début, vous pensiez que c'était des bavardages, et puis finalement, vous pouviez passer tout le temps avec elle à discuter. Ça veut dire que vous n'avez jamais perdu votre temps avec elle.
Oui, oui, j'ai pas perdu mon temps avec elle. C'était vraiment des moments inoubliables avec elle. On pouvait tous se dire, en tout cas, c'était vraiment merveilleux de l'avoir avec moi.
Et vous parlez au passé parce que vous vous êtes éloignée?
Oui, oui. Présentement, il y a de cela 2 ans, et nous sommes séparés avec elle. Elle est partie dans une autre ville, mmh. et moi, je suis restée à Lubumbashi.
Et vous, vous continuez de communiquer?
Oh, malheureusement, on parlait là au début, présentement, on ne se parle plus.
Vous ne parlez plus, c'est quelque chose qui vous manque aujourd'hui?
Oui, ça me manque énormément. Lorsque j'ai un problème, donc avec elle, je pouvais, lorsque je pars au travail, je rentre, je la vois, je l'explique ma journée. Mais aujourd'hui, ça me manque tous ces moments. Je peux avoir des problèmes, je peux avoir des soucis. Je n'ai pas personne à qui le partager, à part elle qui était ma meilleure amie.
Votre meilleure amie, malgré tout, si elle n'est plus là, vous vous sentez mieux aujourd'hui? Vous vous sentez renforcée de l'avoir rencontrée?
Oui, oui, ça a été vraiment très bien de la rencontrer, parce qu'elle m'a ouvrir aux autres. Aujourd'hui, je peux facilement parler aux gens. Et lorsque j'ai un problème, je peux me confier à une personne, des confiances. Tout ça, c'est grâce à elle. Tout ça, c'est grâce à elle, parce qu'elle, elle a influencé ma vie.
Merci beaucoup, Anif. C'est un magnifique témoignage que vous venez de nous livrer, cette histoire d'amitié au féminin. On entend ce mot, on entend ce sentiment, c'est la gratitude.
Oui, c'est un sentiment excessivement important d'avoir de la gratitude pour ces rencontres magiques, ces rencontres qui nous nourrissent encore avec le temps, parce que on entend le témoignage d'Anive, elle est nourrie encore aujourd'hui. C'est vrai que c'est très touchant ce qu'elle communique, on sent vraiment ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit encore. Donc je trouve que c'est important d'avoir de la gratitude pour les rencontres que nous avons eues, mais aussi de la gratitude pour les rencontres que nous allons avoir, parce que ça nous permet de nous ouvrir à ce qui va arriver, parce que la vie continue et on a plein de rendez-vous avec des êtres qu'on n'a pas encore rencontrés maintenant, mais qui vont se présenter.
Ce qui fait plaisir aussi à entendre, c'est qu'il y a cette gratitude, mais il n'y a aucune rancœur sur le départ, sur la séparation. Les choses sont prises telles qu'elles viennent et c'est quelque chose où on voit une grande philosophie de la part d'Anive.
Elle a compris que c'est la vie qui les a séparés et non pas la volonté de l'une ou de l'autre. Elles auraient aimé continuer à être proches, mais c'est vrai que la distance, le changement de vie, c'est ce qui fait que on se perd parfois de vue. Et cela dit, dans son témoignage, il y a un fil quand même qui est maintenu. Hein. Elle se parle moins, mais il y a quand même une connexion qui est maintenue. Mais c'est vrai que c'est la vie qui ensuite, le cours de la vie nous emporte et on se voit moins, voire on se perd de vue. Et on ne peut qu'avoir de la gratitude pour la vie aussi qui nous a apporté cette rencontre. Et c'est comme une vague, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent dans nos vies, qui en ressortent, d'autres qui y restent plus longtemps.
On va partir à présent pour le Sénégal, si vous le voulez bien, Géraldine Prévost-Gigant. La ville de Thiès, on retrouve Diarra, un autre auditeur, une autre auditrice tout de suite en ligne. Bonjour Diarra.
Bonjour madame, bonjour.
Alors racontez-nous cette belle rencontre.
Ouais, enfin moi j'ai eu une très belle rencontre il y a de cela 23 ans.
Mm-hmm.
Et depuis 22 ans, on est devenus mari et femme.
C'est votre époux. C'est votre époux.
C'est mon époux. Mon meilleur ami. L'autre moi, comme je l'appelle.
Comment l'avez-vous rencontré?
J'étais en position de stage. Je venais de finir une formation. On m'avait affecté dans son service. Arrivé là-bas, il m'a accueilli. D'abord, ça a été une amitié. Mmh. Et au fil du temps, on est tombé amoureux. Et après un an et demi de relation, on s'est marié. Voilà, depuis 22 ans maintenant.
Une belle rencontre alors que vous sortiez d'un moment difficile. Justement, comment est-ce que vous avez réussi à passer de cette première partie de votre vie à cette seconde partie?
Moi, je me dis que le passé, c'est le passé. Je l'ai vécu, ça a été une période sombre de ma vie, donc je l'ai mis de côté. Mais au moment de rencontrer mon mari, je me disais que pour le mariage, même, c'est fini. Je ne vais plus jamais me marier parce que ça a été traumatisant, le premier. Mais il m'a mis en confiance, je l'ai estimé aussi, de par sa stabilité, sa vie, en quelque sorte, là. Il m'a mis en confiance pour que je me remarie.
Et quand vous disiez tout à l'heure cette expression absolument magnifique, l'autre moi, qu'est-ce que ça veut dire cet autre moi?
L'autre moi, ça veut dire qu'on vit en symbiose. C'est mon mari, c'est mon meilleur ami, c'est moi en quelque sorte mon père, mon oncle. Donc il est là pour moi, pour tout, surtout.
Est-ce qu'il parle de la même manière de vous?
S'il parle de la même manière, oui, il parle de la même manière de moi.
Ben, on n'hésitera pas à lui donner la parole bientôt pour entendre ces jolies choses. Géraldine Prévost-Gigan, on a bien entendu avec ce témoignage de Diarra une expérience douloureuse, et puis on en sort grâce à la rencontre. On va dire que c'est la lumière au bout du tunnel, hein. Il y a un moment donné, il va faire beau quand même dans la vie. Témoignage de Diarra, c'est le contre-exemple complet de ce que vous traitez dans votre livre et qui s'appelle, dans la langue de Shakespeare, attention à mon accent, Love Remake, c'est-à-dire on répète en amour les mêmes erreurs, on est dans un schéma répétitif et négatif. Là, c'est tout le contraire avec Diarra.
Là, il s'agit d'une rencontre de résilience. À un moment donné, je parle de ces rencontres qui viennent nous soigner, qui viennent nous guérir. Alors, il est important d'avoir fait un petit bout de chemin à l'intérieur de soi. C'est ce que Diarra a fait, visiblement, pour pouvoir voir cet homme et pour pouvoir s'ouvrir à lui. Elle a fait un chemin, même si elle n'en était pas consciente. Mais toute l'autre partie du chemin, en fait, c'est cette guérison qui va s'opérer en nous aux côtés de quelqu'un de bienveillant, aux côtés de quelqu'un de sécurisant, comme ça nous a été décrit par Diarra. Il y a des relations qui viennent nous guérir, nous apaiser, être en effet l'inverse total du Love Remake, de ces êtres qui sont absolument à l'opposé de tous ceux qu'on a pu rencontrer auparavant et qui incarnent, comme je le disais, la bienveillance, le respect, des valeurs importantes qui entretiennent, nourrissent la relation comme on arrose une plante en mettant de l'eau, du soleil, en prenant soin. C'est à ça que j'ai pensé en entendant le témoignage de Diarra. On sent que ces deux êtres prennent soin de leur relation et c'est très beau.
C'est très beau. Merci Diarra, hein. Très très bonne journée à vous. N'hésitez pas à saluer votre mari de la part de toute l'équipe de Priorité Santé. Et on va prendre un dernier auditeur en ligne du Cameroun, de Maroua. C'est vous, Youssouf, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à votre invité.
Bonjour.
On vous écoute, Youssouf, allez-y.
En fait, je voudrais rendre un témoignage concernant deux enseignants que j'ai dû rencontrer durant ma carrière académique. Mmh. Eh bien, il s'agit du docteur Maïmoré Justine et du docteur Bani Martin Paul. Bon, pour planter le décor, j'aimerais d'abord préciser que je suis de nationalité tchadienne, que je me suis retrouvé à Maroc, à Cameroun, juste pour des études. Mais en fait, ce que j'ai remarqué sur ces deux enseignants, c'est qu'ils ont une particularité. Ils ne se comportent pas comme les autres enseignants, en fait. Le rapport avec eux est différent du rapport que j'ai eu à avoir avec les autres enseignants, qui, pour la plupart des cas, étaient tendus. Et donc, notre relation au début qui était sur le plan académique s'est transformée en une relation familiale. Et aujourd'hui, je peux bien vous dire que je me retrouve comme membre de la famille. Je suis invité à toutes les fêtes, on partage tout. Et donc, ça m'a vraiment marqué sur deux plans, parce que sur déjà le plan académique, j'ai pu finir mes études ici en tant que major de ma promotion. Et je dois dire que c'est en partie grâce à ces deux enseignants. Et sur le plan familial, j'ai pu comprendre que quelles qu'en soient les différences de nationalité, de religion ou des statuts, on ne perd rien à être affectif, en fait.
Donc, c'était une immense ouverture de leur part, aussi bien dans leur cœur que dans leur intelligence.
Oui, évidemment, évidemment.
Vous leur transmettez au quotidien cette reconnaissance ou vous êtes trop pudique pour le faire?
Non, je leur transmets, puisqu'ils le savent. En fait, j'ai fini par leur surnommer mon père et ma mère, et ça les amuse bien.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Youssouf, là encore. Géraldine Prévost-Gigan, à la fois mentor, à la fois gratitude. On ressent vraiment des rencontres déterminantes.
J'ai beaucoup aimé cette phrase que Youssouf vient de dire, on ne perd rien à être affectif. Je trouve que c'est merveilleux, c'est très beau. Merci Youssouf pour cette très belle phrase. Oui, les relations... Les mentors peuvent nous ouvrir la porte. Là, on voit que Youssouf a eu la porte qui s'est ouverte sur une famille, sur une communauté. Il y a eu un accueil. Je trouve que vraiment, c'est un mot à retenir. On a parlé de gratitude et je trouve que accueil aussi et bienveillance.
C'est quand on ouvre les bras, c'est la même image.
Voilà, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce que c'est bon aussi quand on nous ouvre les bras. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est vraiment dans les deux sens. Est-ce que moi, j'ouvre les bras? Est-ce que j'accueille ce qui se passe? Est-ce que j'accueille ce que l'on m'offre et comment je suis accueillie. Et vraiment, c'est ce que je retiens du témoignage de Youssouf. C'est vraiment l'accueil et tout ce que ça a permis de faire fleurir en lui, en termes de bonheur, de confort, de motivation certainement, pour poursuivre ses études telles qu'il le souhaitait, et certainement l'encourager, il a trouvé un appui, un soutien. Chose, c'est merveilleux cette notion d'accueil.
Alors un autre regard à présent, autre analyse, je vous propose de partir tout de suite pour le Bénin.
Parakou, 106.1 FM.
Et c'est là qu'on vous retrouve, professeur Prosper Gandao, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de psychiatrie du centre hospitalier départemental universitaire du Borgoua Parakou. Professeur Gandao, on explore les différentes facettes de ces rencontres depuis le début de cette émission. On a bien sûr évoqué en quelques mots Internet, c'est vrai aussi au Bénin. Mais vous diriez, chez vous, c'est quoi les conditions, les lieux privilégiés pour se rencontrer ?
Les lieux privilégiés de rencontre au Bénin sont multiples. Il peut s'agir de rencontres qui vont s'opérer donc à la plage, il peut s'agir de rencontres qui se perdent au niveau des lieux de travail, à l'université, dans les restaurants, dans les regroupements de prières, à l'église, pour ne citer que ces quelques lieux. Sinon, les rencontres s'opèrent même dans la rue où on discute, on se rencontre, et même également dans les salles de consultation donc de médecins. Donc tous les lieux où l'homme peut vraiment se manifester, des lieux de vie considérés, des lieux de rencontre.
Au cours de cette émission, on a eu énormément de témoignages d'auditeurs de rencontres spontanées, les hasards de la vie, professeur Gandao, mais il y a aussi, c'est une réalité, des rencontres préparées, arrangées. Est-ce que c'est une tradition qui se confirme chez vous ?
Oui, c'est des traditions que nous vivons effectivement, où des enfants qui n'ont pas vécu souvent ensemble, qui ont vécu séparément, qui ont grandi, les familles veulent arranger le mariage et organisent des rencontres. Il peut s'agir également des collègues qui constatent chez leurs camarades des attitudes qu'ils veulent corriger, essayer de rétablir une relation qui s'est abîmée entre des individus, d'autres individus qui organisent donc ces rencontres où les gens se retrouvent pour la première fois ou une autre fois pour pouvoir échanger, partager, se connaître et décider du choix à faire pour les jours à venir.
Parce qu'il y a aussi une question de réputation. On dit faire une mauvaise rencontre, c'est dans le vocabulaire courant, professeur Gandao. Il y a certaines personnes qui peuvent se retrouver contraintes finalement de se retrouver, de se rencontrer dans la clandestinité.
Ah oui, effectivement. Généralement, comme j'ai dit, est-ce qu'il faut aborder la question ici ? Il y a les questions de coutumes de religion qui font que l'individu qui appartient à une religion donnée ne peut pas se mettre, par exemple, en mariage avec un autre d'une autre religion. Alors, quand bien même ces individus s'aiment, ils sont obligés de commencer donc par se voir dans la clandestinité et peut-être profiter d'une occasion, une grossesse, par exemple, et sortir de la clandestinité, s'imposer aux parents.
Mmh. Et à ce moment-là, justement, il va y avoir tout un travail de médiation. On parlait tout à l'heure des schémas répétitifs, professeur Prosper Gandao, des personnes qui ont l'impression d'être enfermées dans toujours la même aventure. Est-ce que certains patients viennent justement vous voir en vous disant « je commets toujours les mêmes erreurs », comment est-ce que je peux sortir de ces relations toxiques ?»
Je vous remercie pour cette préoccupation. Effectivement, il n'est pas facile de venir voir le psychiatre en Afrique, particulièrement chez nous, mais nous rencontrons certains patients qui viennent parce qu'ils sont incapables de maintenir une relation amoureuse et recherchent les raisons pour lesquelles cela arrive. Il y a d'autres qui sont déprimés et ceux-là qui, une fois, chaque fois qu'ils tentent donc une nouvelle liaison, ne se soldent pas un échec. Et c'est justement à ce niveau-là que nous essayons de les prendre et on organise des groupes de thérapie avec eux pour voir comment on peut les aider. Il y a d'autres qui ont des questions de timidité ou alors n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et c'est justement à travers les rencontres avec d'autres personnes qui ont de l'écoute, qui les accueillent, qu'on renforce en eux leurs possibilités, leurs potentialités pour leur permettre d'évoluer par la suite.
On vous remercie infiniment pour votre éclairage, professeur Prosper Grandao. Je rappelle que vous êtes professeur de psychiatrie d'adultes à l'université de Parakou, au Bénin. Géraldine Prévost-Gigant, on se retrouve dans le studio de RFI, dernière partie de cet échange. Encore un témoignage, une citation d'un auditeur, affaire de chimie. C'est ce que vous dites dans votre livre, quand il y a le coup de foudre. Il y a Amine à Mayotte, un message Facebook, je vous le lis. J'ai rencontré une fille lors d'une fête. J'ai eu un coup de foudre, dès que je l'ai vue. Dès que je la vois, je rougis, je stresse. Mon cœur bat à 100 à l'heure, à tel point que je n'arrive pas à lui parler. Comment vous réagissez à ce témoignage?
Le feu d'artifice de l'amour.
Qui bloque, par contre.
Oui, c'est ça. C'est que pour les hypersensibles et les hyperémotifs, ça va créer un petit handicap. Quelle est la clé pour ça? D'accepter, là aussi d'accueillir, mais nos propres émotions. Et ne pas tenter de vouloir les masquer. Parce que plus on essaye de faire genre, plus c'est compliqué parce qu'on refuse une partie de soi, finalement.
Ça veut dire, peut-être pour cet auditeur Amine, d'aller voir cette personne en disant « Oh là là, j'ai du mal à te parler, mais il faut que je le fasse. »
Voilà, par exemple. Tout à fait. Et ça ne peut que être craquant, charmant. C'est ça, souvent, ce que les timides ne savent pas ou les hypersensibles ne savent pas.
On peut avoir peur aussi d'essuyer un camouflet.
Ah bah oui, mais on a tous peur.
Faut se jeter à l'eau.
Oui, on a tous peur de que ce ne soit pas réciproque. Mais la vie, c'est ça. C'est prendre le risque. Et on a tellement à gagner de prendre le risque. Et puis si c'est pas réciproque, c'est que quelqu'un de mieux et qui nous correspond davantage
nous attend quelque part. Vous écrivez, on arrive à la fin de l'émission, vous écrivez, Géraldine Prévost-Gigant, écouter notre alarme intérieure et agir en conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se méfier? Il faut écouter son intuition?
On écoute peu son intuition, on apprend à l'écouter. En effet, on a des signaux émotionnels, des sensations, des réactions. Tout de suite, dès qu'on rencontre la personne la première fois, même parfois avant d'avoir échangé quelques mots, on va ressentir quelque chose.
Pourtant, il y a des gens avec qui ça se construit dans le temps. Finalement, la première impression est désastreuse et après, on a une merveilleuse rencontre.
C'est pas le même signal interne.
D'accord.
Il peut y avoir un démarrage qui se fait par quiproquo, où on pense que l'autre est comme si ou comme des a priori. Voilà. Par contre, le ressenti instinctif immédiat.
Le malaise.
Attention. Bien souvent, avec le temps, combien de fois on s'est dit. Mais je le savais.
J'aurais dû m'écouter.
Voilà.
Des rencontres qui bouleversent la vie. On l'a bien compris au cours de cette émission et c'est ce que raconte dans son message Pascal qui est à Bukavu. La rencontre avec ma copine a changé ma vie. Je cherchais l'amour depuis longtemps et dès que je suis tombée amoureux d'elle, j'ai changé de comportement. Vous parliez justement de la rencontre qui nous aide à changer. J'ai eu du succès dans mes projets. Ce sera le mot de la fin. Belle rencontre. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Géraldine Prévost. Gigant.
Merci.
Beaucoup d'autres pistes, d'autres analyses dans votre livre. Je rappelle le titre, La force de la rencontre. C'est publié aux éditions Odile Jacob. Et à présent, dans Priorité Santé, on retrouve le docteur Catherine Solano, sexologue. Bonjour docteur Solano.
Bonjour Caroline Paré.
Et comme toutes les semaines, vous allez répondre à une question Facebook d'un auditeur de l'émission cette semaine. C'est Kofi, il nous a expliqué son problème tous les soirs. Il ressent l'envie d'avoir un rapport sexuel et il constate que quand il ne passe pas à l'acte, quand il ne fait pas l'amour, il n'arrive pas à trouver le sommeil, même quand il est fatigué. Il ajoute que lorsque son épouse a ses règles, il ne dort pas, il est énervé. Kofi vous pose donc cette question, docteur Solano, je reprends exactement ces termes. Comment expliquer cet appétit sexuel?
Alors, je trouve que c'est une question vraiment intéressante parce que ce que je peux dire, c'est que Kofi, il parle d'appétit sexuel, mais en fait, c'est pas du tout de l'appétit sexuel dont il s'agit. C'est pas du désir sexuel, c'est tout autre chose.
Alors, de quoi s'agit-il précisément?
Eh bien justement, Kofi, il a besoin de se relaxer pour dormir. Et donc, on sait qu'une relation sexuelle avec un orgasme, ça a pour effet de vous relaxer et de vous donner envie de dormir. Ça, on l'observe souvent. Et c'est dû à une hormone qui s'appelle l'ocytocine qui est sécrétée pendant l'orgasme. En fait, Kofi, il s'est habitué à avoir un orgasme et à utiliser cet orgasme comme somnifère. Du coup, c'est un peu comme si son organisme qui n'avait pas sa dose de produits relaxants, il ne sait pas comment faire pour dormir.
Alors ça met sa compagne, sa partenaire dans une situation pas très confortable. Hein. Elle se retrouve d'une certaine manière responsable de son sommeil, un petit peu un somnifère par procuration.
Oui, voilà. Alors c'est pas du tout agréable, surtout en plus quand c'est obligatoire tous les soirs pour que monsieur trouve le sommeil, quoi. Alors évidemment, si les deux partenaires, si la femme de Kofi, elle adore faire l'amour tous les soirs avant de dormir, ben ça tombe bien. Pourquoi pas? Il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Mais si monsieur est énervé quand il fait pas l'amour le soir et toute la journée du lendemain, ben c'est pas une très bonne idée. Il vaudrait mieux qu'il trouve une autre solution pour réussir à dormir.
Alors par exemple, justement, on va voir ce que font un petit peu les autres solutions, les autres pistes pour ne pas conditionner ce sommeil à l'activité sexuelle. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Alors ce que je peux lui dire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui trouvent plus facilement le sommeil, enfin qui s'endorment facilement après l'amour. Mais la plupart des hommes, eh ben ils n'ont pas du tout besoin de ça pour s'endormir, heureusement d'ailleurs, parce que sinon comment on ferait quand on est célibataire, hein. Donc il y a d'autres moyens pour se détendre et se relaxer. Il y a des hommes qui font du sport dans la journée, il y en a qui lisent un petit peu avant de dormir ou qui écoutent une musique calme, il y en a qui font de la relaxation ou de la méditation, d'autres qui jouent avec leurs enfants, d'autres qui prennent une douche.
Et un bon bouquin aussi, hein, ça peut aider.
Oui, j'ai dit un bon bouquin qui lise, hein, oui, tout à fait. Et d'autres aussi qui font un simple câlin à leur femme, je parle de se prendre dans les bras, pas de faire l'amour. Et donc, chaque être humain, est effectivement, comme Kofi, a besoin de se détendre pour pouvoir s'endormir. Mais quand on n'a qu'une seule méthode à laquelle on est habitué, eh bien, on devient prisonnier de cette méthode. Et il y en a comme ça qui n'ont qu'une méthode, qui vont se ronger les ongles tout le temps, c'est ça qui les détend, qui mangent beaucoup trop, parce que c'est ça qui les détend, ou qui fument ou qui boivent de l'alcool, parce qu'ils ne savent pas se détendre autrement.
Ce que vous êtes en train de conseiller à Kofi, c'est de chercher une autre méthode de détente.
Exactement, il faut qu'il s'observe et qu'il se dise, bah, quand j'écoute de la musique, ça me fait du bien, je suis plus détendue. Ou comme vous disiez, Caroline, quand je lis un bouquin, peut-être pas un polar stressant, mais certains livres, ça me détend. Ou quand je mange un petit, je bois un verre de lait, autrefois on disait ça. Voilà, il faut trouver sa méthode pour se détendre.
En tout cas, ce qu'on entend dans ce témoignage de Kofi, c'est que son fonctionnement actuel le dérange.
Voilà, ça le dérange. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est que, donc ça, c'est une bonne chose que ça le dérange, parce qu'il se rend compte qu'il fait sans doute pression sur sa femme ou qu'il se sent pas en équilibre avec ça. Donc, ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a certains hommes qui pratiquent la masturbation de manière privée, hein, pas forcément pour imposer ça à leur femme, qui n'en a peut-être pas envie, et quand ils obtiennent un orgasme seul, ça peut les aider à dormir aussi. Donc c'est une chose qui peut être utilisée. Et puis, ce que je dirais à Kofi, c'est ce qui fait énormément de bien pour dormir, c'est de se faire un câlin. C'est-à-dire le contact peau à peau, ça fait beaucoup de bien, et ça fait aussi fabriquer de l'ocytocine, cette hormone de détente, et c'est quelque chose qui, fait partie de la sexualité, le peau à peau, même sans excitation. Donc, il aura quelque chose quand même auquel son corps est habitué, avec de la tendresse, sans excitation. Ça peut aussi aider à dormir.
Alors, en tant que médecin, est-ce que vous diriez que, d'une certaine façon, Kofi a une conduite addictive par rapport à sa sexualité?
Ben, un petit peu, mais pas totalement. Un petit peu, pourquoi? Parce que ça le dérange, parce qu'il ressent ce rapport sexuel comme un besoin, ce qui n'est pas normal. Un rapport sexuel, ça doit être ressenti plutôt comme une envie, comme un désir, et quand c'est un besoin, il y a quelque chose qui dérape en fait, hein. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est que pour une femme, avoir un mari qui râle si vous ne faites pas l'amour tous les soirs, eh bien ça peut devenir une pression terrible quand vous n'en avez pas envie. Et donc ce n'est pas du tout normal de faire pression sur sa partenaire ou sur son partenaire quand il n'a pas envie de faire l'amour. Et je rappelle que pour faire l'amour, eh bien il faut être deux, en avoir envie.
Et en avoir envie surtout. Docteur Catherine Solano, à très bientôt dans Priorité Santé. Et bien sûr, vous pouvez laisser vos messages et surtout vos questions sur la page Facebook de l'émission. À bientôt. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Aujourd'hui, Ophélie Lassagne et Juliette Brault, Jérémy Besset et Diego Tenorio en studio. Demain, dans Priorité Santé, émission spéciale Questions de femmes. Notre nouveau rendez-vous chaque vendredi. On vous donne la parole à vous, auditrices, avec comme thème du jour santé et soins de la peau au féminin. Peau naturelle, bon geste, produits recommandés, pratiques à éviter. À demain, d'ici là, portez-vous bien et surtout, lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.